Donc on prend la page 32 à 3. On reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit Metsa barefet enuchayav. On avait dit que si on a trouvé une vache barefet dans une étable, on n'a pas l'obligation, d'accord, de la rendre à son propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'on a expliqué qu'on considère que si elle est dans une étable, c'est que son propriétaire l'a laissée de manière intentionnée, et que moi, quand je vais venir, je vais la prendre, je vais attendre, etc. Le propriétaire va dire, monsieur, je ne vous ai rien demandé. C'est mes affaires. Alors, on a expliqué la semaine dernière, dans la Gemara, que de quel type d'étable on parlait ? On parlait d'une type d'étable qui est Enamata Vena Meshameret. Ça veut dire, on parle d'une type d'étable dans laquelle il y a de la verdure, ça veut dire que l'animal n'a pas besoin de sortir. Mais d'un autre côté, c'est une étape qui n'est pas cloisonnée à 100%. Donc ce qui fait que la vache, si elle veut, peut sortir. Donc c'est sur ça qu'on nous a dit qu'on n'a pas l'obligation de en chayavba, qu'on n'a pas l'obligation de la rendre à son propriétaire. Ok. Alors on nous dit maintenant, la Gemara, Metsa barefet en chayavba. Donc tu m'as dit dans la Mishnah que si j'ai trouvé dans une étable, maintenant on sait de quel type d'étable on parle, je n'ai pas l'obligation de la rendre, j'ai pas l'obligation de Hashavat Aveda de la rendre à son propriétaire. Alors je peux passer, c'est pas mes affaires. Donc maintenant la Gemara va essayer de rechercher où se trouve cette étape qu'on a dit. Alors, comme je vous ai dit, la semaine dernière, on a déjà expliqué quelle catégorie d'étable c'est. On a dit que c'est une étable dans laquelle il y a de la verdure, donc l'animal peut manger, mais d'un autre côté elle est ouverte. Maintenant on va essayer de réfléchir sur la localisation de l'étable. Est-ce que c'est une étable qui est dans un champ? Ça veut dire en dehors de la ville, à la campagne, dans la ville. Parce que ça aussi, ça change. Jusqu'à présent, on a seulement étudié la nature de l'étable. Maintenant, on va étudier la localisation de l'étable. Et ça va changer. Amar Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak a dit, « Vehu sheomedet toch litrum. » Donc, quelqu'un, on a dit que celui qui a trouvé, enfin, que celui qui passe devant cette étable et qui voit un animal dedans n'a pas l'obligation de s'arrêter et d'attendre que le propriétaire revienne. Hein. C'est uniquement si l'étable se trouve, torch litrum, à l'intérieur, d'accord, de la ville. Alors, ou à l'intérieur de la ville, ou dans le limite, enfin, on appelle ça le limitrophe de la ville. D'accord? Ça veut dire, on est encore dans les 2 kilomètres, ou dans le kilomètre qui est autour de la ville. Là, dans ce cas-là, puisqu'on est encore dans la ville, donc on considère que le propriétaire n'est pas loin. Miklal, la Gemara dit, de Rabbi Yitzhak, je comprends, de Birshut Arabim, que si la vache se trouve Birshut Arabim dans le domaine public, va filou betor hatroum nami, même si le domaine public se trouve betor hatroum, ça veut dire dans la ville, nami, on a l'obligation de la rendre. Ça veut dire comme ça. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit que si j'ai trouvé la vache dans l'étable, je n'ai pas l'obligation de la rendre. Mais si j'ai trouvé la vache dans la rue, dans le domaine public, je n'ai pas dans ce cas-là, j'ai l'obligation de la rendre. Très bien. Alors écoutez bien ce que Rabbi Yitzhak a dit. Rabbi Yitzhak a dit que l'étable est localisée où, c'est Daniel?
Dans la
ville ou en dehors de la ville? À la campagne ou dans la ville?
Dans la ville.
Dans la ville.
Et aux abords de la ville.
Non, ça veut dire ou dans la ville, mais bon.
Comme on dirait la banlieue, là.
Voilà. Ou dans la ville ou dans la banlieue, exactement. Ouais. Ou dans la ville ou dans le kilomètre qu'il y a après la ville.
C'est un rapport avec les roues ou pas?
Non, Troum, ça veut dire c'est autour de la ville.
D'accord, mais le roux, c'est aussi autour de la ville.
C'est parce que justement, le roux, il prend le concept du tour de la ville.
Question qui me
le contraire, c'est le roux qui comprend le concept du Troum.
Quand une vache, elle est dans l'étable.
Oui.
C'est qu'elle appartient à l'étable.
Très bien. Et le problème, c'est que moi, je me dis...
Ouais. Il y a 3 cas.
Ouais. Monsieur Daniel, c'est comme si je vous dis, je marche dehors dans la rue, et je trouve un téléphone portable par terre. Si c'est un téléphone portable, certainement, il appartient à quelqu'un. Oui. Mais non. Sauf que je me dis, il a été perdu par son propriétaire.
Mais là c'est un lieu public.
Donc moi, ce que je considère, c'est que le propriétaire, il est en train de perdre son animal, parce que son animal risque de se sauver.
Mais là,
et il n'aura que ses yeux pour pleurer.
Mais là, c'est un lieu public. Là, on parle de l'animal qui est dans une étable.
Très bien.
Donc, ça, c'est...
Alors, c'est une bonne question.
Vous dites un téléphone qui se trouve dans la...
Imaginez-vous que je passe dans la rue, alors, avec vous un exemple moderne, je passe dans la rue et je vois une voiture avec les clés sur le moteur. Il n'y a personne dedans. Le gars, il est parti à une boulangerie, j'attends 2 minutes, je vois qu'il n'y a personne. C'est un inconscient, le gars. D'accord? Qu'est-ce que vous faites?
Je prends une voiture, je m'en vais.
Qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que tu fais?
Moi, je prends les clés en attendant de...
Vous prenez... Non, personne ne vous a demandé. Vous avez dit, monsieur, je ne vous ai pas demandé de prendre les clés.
Ouais.
Parce que voilà, maintenant, ma voiture, elle ne se rallume plus. J'ai pas de batterie.
Ouais.
Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous restez à côté.
Ouais.
D'accord, vous allez être tenté à rester à côté. Et quand le propriétaire va revenir, vous allez lui passer un petit savon. Certainement. Vous allez dire, monsieur, vous savez que si j'étais pas là, votre voiture aurait pu ne pas être là maintenant. D'accord. Bon. Donc, Metsa Barefet, qu'est-ce que nous apprend la Mishnah? Elle dit que si j'ai trouvé la vache dans une étable qui n'est pas bien gardée, d'accord, c'est-à-dire qui est gardée mais pas gardée à 100%, je n'ai pas besoin de m'arrêter. Je considère que ce n'est pas mes affaires. Mais si j'ai trouvé dans le domaine public, même si le propriétaire peut me dire « Oui, mais monsieur, j'étais à côté, qu'est-ce que vous voulez ?» Qu'est-ce qu'on dit ?« Chayavba », dans ce cas-là, j'ai l'obligation ou de la ramener à son propriétaire ou de rester à côté jusqu'à ce que le propriétaire revienne. D'accord ?
En fait, c'est une négligence du propriétaire.
Exactement. Maintenant, Rabbi Yitzhak nous dit une nouvelle chose. Rabbi Yitzhak nous dit que cette étable est localisée dans la ville, ou enfin dans la limitrophe de la ville. Elle est à côté de la ville. D'accord ? Et que c'est pour ça que...
Tiens, tu vois, c'est marqué Hérouv.
Oui, le Troum, c'est une notion qu'on reconnaît dans le Hérouv.
Ah, voilà.
D'accord ? Mais là, ça n'a rien à voir avec le Hérouv, on n'est pas Shabbat maintenant.
Il y a un commentaire quand même, hein ?
Oui, je sais, je connais le commentaire. Le commentaire, c'est de dire que le Troum... C'est un rapport avec le héros, c'est-à-dire c'est un kilomètre, etc.
Ah, d'accord.
Oui. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'on considère le limitrophe de la ville, bien sûr. Mais c'est le héros qui emprunte la notion du troum, tu comprends ?
Mm-hmm.
Le troum, c'est une notion qui existe. Le limitrophe de la ville, c'est un kilomètre. Le héros emprunte cette notion. Nous aussi, on l'emprunte.
Mais alors, la fameuse étable du départ, la fameuse étable qui est ouverte sur un prêt, etc.
Oui.
Le prêt, lui, il est de domaine public, alors ?
Non. Qui est ouvert, pas du tout. Le prêt, il est dans la ville. C'est pas un domaine public, non. C'est tout un domaine privé.
Alors, c'est quoi alors ?
Alors justement, le problème, c'est que c'est ouvert. C'est-à-dire qu'elle risque de se sauver.
Non, mais imagine-toi, tu vois un prêt, que quelqu'un avait des barrières, par exemple, ou un truc comme ça.
Oui.
À l'intérieur, comme ça, sur la campagne, il y a une étable.
Il y a une étable.
Qui n'est pas fermée. La vache, elle est dans le prêt. Elle est dans le domaine privé, là, pour
alors,
l'instant.
Très bien, elle est dans le domaine privé. Bien sûr que c'est un domaine privé, Réfet.
Donc c'est là que tu n'as pas à intervenir.
J'ai pas à intervenir. Pourquoi j'ai pas à intervenir ? Bien que, a priori, le propriétaire est inconscient, parce que la vache peut sortir.
Elle peut sortir.
Mais je m'en occupe pas. D'accord. J'ai pas de mitzvah. Si je veux le faire, je peux rester, tant mieux, mais j'ai pas de mitzvah. Par contre...
Elle va sur la route.
Ah oui, elle va sur la route, elle se sauve. Quelqu'un peut la voler.
Elle va sur la route, là je dois la garder. Ou la ramener.
Si elle est dans le domaine public, sur la route, là je dois la garder. Alors, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yitzhak ? Rabbi Yitzhak nous a dit que cette vache, où elle est cette vache ? Elle est, l'étable où elle est dans le domaine, elle est donc dans la ville.
Dans la ville.
Très bien. Et tu nous as dit que c'est pour ça que j'ai l'obligation de...
La ramener.
De là, je comprends. Nous dit la Gemara, que dans le cas qu'elle est dans le domaine public, de quel domaine public on parle ? Est-ce qu'on parle d'un domaine public qui est à la campagne ou dans la ville ?
Dans la ville.
Ah oui, puisque le premier cas de la Mishnah qui parlait de l'étable, tu m'as dit que c'était dans la ville, donc le deuxième cas de la Mishnah qui me dit, mais s'il a trouvé dans le domaine public, ben, a priori il parle aussi du même cas. Ça voudrait dire que même si je trouve la vache, d'accord, c'est un peu fin ce qu'on va expliquer ici. Ça voudrait dire que même si je trouve la vache dans la rue, ici, rue Paulin-Enfer, c'est pas à la campagne, d'accord ? Dans la rue Paulin-Enfer, et que j'ai envie de la ramener à son propriétaire, le propriétaire va me dire, mais monsieur, je vous ai rien demandé, j'étais à côté, j'étais au bistrot d'à côté. J'aurais quand même l'obligation de la ramener à son propriétaire ou de rester à côté. Alors, je vais bien expliquer pourquoi je vous dis que c'est fin, parce que, faut bien comprendre ce que je veux dire. Le fait qu'on parle d'un domaine public, enfin, qu'on est dans la ville, ça va être en faveur de l'étable et en défaveur du Rechut d'Arabim. Regardez bien ce que je veux dire. L'étable, d'accord ? D'après vous, dans quel cas l'étable est mieux protégée ? Lorsqu'elle est dans la ville ou lorsqu'elle est en dehors de la ville ?
Lorsqu'elle est dans la ville.
Lorsqu'elle est... Hein ?
Mieux protégée.
Mieux protégée. Ça veut dire que il y a plus de raisons de dire que le propriétaire est à côté, est aux abords. Dans la ville ou en dehors de la ville ? Qu'est-ce qu'il dit, Yaakov ?
Dans la ville.
Dans la ville, bien sûr. Parce qu'en dehors de la ville, ça veut dire que pour venir ici, il doit faire encore 5 km. Je vois autour, il n'y a rien, il n'y a personne.
Ah oui, c'est la nature.
Alors que dans la ville, dans la ville, il y a beaucoup de choses. Il y a des immeubles, il y a des magasins, il peut être autour. Très bien.
Mais il y a beaucoup plus de monde qui risque aussi de...
Bonne question, très très bien.
De prendre la vache.
Donc, d'un côté, il y a du monde qui risque de prendre la vache, et d'un autre côté, il y a plus de raisons de dire que le propriétaire... D'accord ? Et peut-être à côté, en train de regarder la vache. D'accord ? Ou en train de guetter la vache. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous a dit ? On nous a dit que si je la trouve dans une étape qui est dans la limite de la ville, est-ce que j'ai l'obligation de la prendre?
Non.
Non, très bien. Maintenant, on va passer au domaine public. Je suis dans la, je suis sur une nationale qui est en dehors de la ville et je vois une vache. Oui? Vous me suivez? Je vois une vache. Est-ce que j'ai l'obligation de la ramener à son propriétaire? Bien sûr, c'est sûr qu'elle est perdue, là. D'accord? Je suis sur une nationale.
On n'a pas évoqué ce cas, c'est qu'elle est première.
Deux secondes. Mais ce qu'on veut te dire ici, c'est que la Mishnah est partie plus loin que ça encore. Elle t'a dit, même si le domaine public est un domaine public qui est dans la ville,
t'as l'obligation de la ramener.
D'accord? Et que, dans ce cas-là, c'est pas comme le domaine public de la campagne. Dans le domaine public de la campagne, j'aurais compris que tu dois la ramener. Parce que c'est sûr qu'elle est perdue. Je tourne mes yeux autour, je vois que 5 km autour, il n'y a personne. Là, je comprends que je dois la ramener. Je dois attendre le propriétaire. Mais dans le cas de la ville, que je veux plus dire que peut-être le propriétaire est là, est aux alentours, il est dans un magasin, il est en train de guetter sa vache. Qu'est-ce qu'on te dit? Puisque Rabbi Trak nous a dit que le cas de Refet, que le cas de l'étable parlait dans la ville, ça veut dire que le cas du domaine public parle aussi dans la ville. Que même si on est dans la ville et que le domaine public est dans la ville et qu'il y a de fortes chances que le propriétaire est aux alentours en train de guetter sa vache, j'ai quand même l'obligation d'attendre pour la ramener à son propriétaire. Tu es?
Donc? Donc la fortiori en dehors de la ville.
Bien sûr, ça. Tu as plus forte raison. Comme il dit ici, des birchut arabim a fait le betor à Troumanami. Et là, j'en comprends que dans le domaine public, même si on est dans la limite de la ville, quand, et que, en d'autres termes, j'ai de fortes chances de penser que le propriétaire est aux alentours, je dois quand même la rendre. D'accord? Ça veut dire, je reprends mon exemple de la voiture, M. Daniel. Ouais. Oui. Je vois une voiture dans la rue. D'accord, voilà, on va prendre l'exemple. Je vois une voiture dans un garage ouvert, avec les clés sur le moteur. Ça s'apparente à l'étable ou au domaine public? Qu'est-ce qu'il dit, Yakov?
Moi, je peux goûter le fait de lire.
À l'étable.
On a raison avec Paulien.
À l'étable.
S'apparente, je répète la question. Je vois une voiture, avec les clés sur le moteur, donc moteur tournant, dans un garage. Le garage est ouvert.
À l'étable.
Hein? C'est l'étable ou pas? Bah oui, parce qu'apparemment il y a de l'essence, donc elle a ça à manger, hein, elle va pas se sauver, elle n'est pas là pour se sauver.
Elle est dans un endroit localisé.
Et elle est dans un endroit localisé, exactement. Donc c'est l'étable, très bien. Ça, c'est un premier cas. Donc ça, dans ce cas-là, est-ce que j'ai l'obligation de rester à côté pour que le propriétaire revienne? Non.
Quoique si c'est louche, tu peux rester à côté.
Bon,
c'est pas louche là aussi.
Non, c'est pas louche. Je passe à côté d'un garage, il y a un moteur tournant, et je vois personne, mais c'est pas mes affaires.
Non, bon,
je touche pas. Si je veux faire une mise là, je peux rester, mais je suis pas obligé.
D'accord.
Maintenant, deuxième cas. Je suis ici de rue Paul-Enfer et je vois une voiture moteur tournant sans qu'il y ait personne à l'intérieur. Alors, si j'étais à la campagne dans la nationale et que je vois une voiture moteur tournant et que je tourne mes yeux, je vois personne 5 km autour.
Évidemment.
Là, c'est sûr que je dois attendre le propriétaire. Peut-être j'éteins le moteur ou je sais pas, je fais quelque chose, quoi. D'accord? Mais là, on te dit, même si tu es dans la ville, à côté d'une boulangerie, hein, voiture moteur tournant, et que je me dis certainement le propriétaire est dans la boulangerie à côté.
Ouais.
Certainement. J'ai quand même l'obligation de rester à côté.
Ouais.
S'il y a un risque que la voiture va être volée, j'ai l'obligation de rester à côté. Et de dire au propriétaire, de dire, monsieur, votre voiture aurait pu être volée. Tu veux?
Mais on a vu pour le domaine public, parce qu'aujourd'hui vous nous enseignez la notion que le domaine public il peut se faire en ville ou à la campagne. Mais avant, ça n'existait pas. Le domaine public.
Quand on parle ici de domaine public, on ne parle pas de... J'ai compris votre question. Quand on parle de domaine public, ici, on ne parle pas de domaine public de Shabbat. Parce que le domaine public de Shabbat, il y a des restrictions particulières. Il y a des avis qui pensent qu'il doit faire 16 amotes de large, d'accord, c'est-à-dire 8 mètres de large. Il y a des avis qui pensent qu'il faut qu'il y ait 600 000 personnes qui passent par jour. Il y a beaucoup de restrictions sur le Reshut Harabim. Parce que le Reshut Harabim de Shabbat, on l'apparente au désert, lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert. Donc c'est pour ça qu'il y a des restrictions particulières. Et dans le désert, il y avait des restrictions particulières sur le camp des Bnei Israël. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça Reshut Harabim. Et ça, c'est pour Shabbat. Mais Reshut Harabim, en général, dans la notion en général Reshut Harabim, c'est-à-dire en domaine public, un domaine qui n'appartient à personne. No man's land.
Mais ce domaine, qu'il soit en ville ou à la campagne, c'est la même chose. Il a les mêmes critères.
Oui.
Aujourd'hui, on fait une différence.
Mais nous, on essaye de réfléchir. Dans quel cas on a plus de chances de dire que le propriétaire est aux alentours?
Oui, mais on ne devrait pas le citer en
disant le domaine public. Écoutez ma question.
De la ville et celui
de... Seconde, écoutez ma question. Dans quel cas j'ai plus de chances de dire que le propriétaire est aux alentours?
Dans la ville.
Dans la ville.
Ouais.
D'accord. Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que même dans ce cas-là, j'ai l'obligation de la ramener à son propriétaire. Pas seulement si on est à la campagne.
Oui, mais pourquoi ils font
pourra en faire une différence.
Pour une différence.
Parce que si la Mishnah n'a pas, si la Mishnah n'en a pas parlé, normalement, on aurait dû prendre le cas dans lequel il y a le moins de chidouche. Donc, on a, comme on l'a expliqué plusieurs fois, on aurait dû dire que la Mishnah parle d'un cas, d'un Rechut Arabim qui est à la campagne. Et que c'est pour ça qu'il faut le rendre. Mais sinon, personne ne t'a demandé de te mêler. Vous comprenez ? Mais sauf que puisque Rabbi Yitzhak a expliqué que le premier cas de la Mishnah parle d'un cas où on est dans la ville, donc de là on a compris que le deuxième cas parle aussi d'un cas où on est dans la ville. Je répète ? Bon, on va suivre un petit...
Est-ce que ma question c'est une question ou pas ?
Bien sûr, parce que c'est une question. Mais ma réponse c'est une réponse aussi. On va lire encore un peu de quelques lignes, et après je vais repasser une couche. Ika de Matnela Asefa. Il y en a qui ont enseigné ce que Rabbi Yitzhak a dit Asefa sur la fin de la Mishnah. Que qu'est-ce qu'on a dit sur la fin de la Mishnah ? Dans la fin de la Mishnah, on a dit que... Qu'est-ce qu'on a dit à la fin de la Mishnah, M. Daniel ? À la fin de la Mishnah, on a dit que... quand on est ici, on l'a trouvé dans le domaine public, on a l'obligation de la rendre. Et que sur ça, Rabbi Yitzhak aurait dit que Rabbi Yitzhak ne serait pas exprimé sur le début de la Mishnah. Rabbi Yitzhak ne serait pas exprimé sur l'étable. Rabbi Yitzhak s'est exprimé sur le Rechut Arabim. Que sur le cas du Rechut Arabim, sur le cas du domaine public. Dans ce cas-là, il nous dit que... Ah, ma Rabbi Yitzhak a dit, Vehu, Sheomed et Mirchutz le trou. Que c'est à condition que la vache se trouve en dehors du trou. De la limite de la ville. Miklas, de là je comprends. Debirefet. Que dans les cas de l'étable, à filou omedet chutz litroum, même si elle est en dehors du trou, en dehors de la limite de la ville, nami enochayavba, il n'a pas non plus l'obligation de la rendre. Bon. Alors je vais essayer de vous montrer sur un papier. Voilà. On prend ton stylo. Hein.
Oui, c'est, de toute façon, c'est écrit en papier. Hein,
d'accord.
Tu veux un stylo, j'en ai un.
Alors, donc, c'est merde, voilà. Donc on a notre Mishnah, on a parlé d'un premier cas. Voilà, le cas de Refet. D'accord ? Refet, c'est l'étable. Deuxième cas, c'est le cas de, je vais la mettre en abréviation, Rechut Arabim. D'accord ? Chaque fois que vous avez cette abréviation, ça veut dire Rechut Arabim. Rechut Arabim. Donc, domaine public. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah ? La Mishnah dit que dans le cas de Refet, est-ce que j'ai l'obligation de rendre ? Le cas de l'étable ?
Non.
Non. Rechut Arabim, est-ce que j'ai l'obligation de rendre ? Oui. Maintenant, il y a une marloquette, enfin, il y a deux avis, sur, pour comprendre ce que Rabbi Yitzhak a dit.
C'est Windows.
Hein ?
Oui, c'est Windows. Et une note Windows en même temps...
Alors,
on prend beaucoup de choses dans les
avis, non, et dans le iPhone, c'est comme ça. Ah. Alors, et avec une... Alors, comme ça, c'est... Hein? Alors, Refed, Rechut Arabim. L'étable, qu'est-ce qu'on a dit ? Bonjour. L'étable, on a dit, c'est pas l'obligation. Rechut Arabim, j'ai l'obligation de rendre. Oui. Très bien. Donc, Rechut Arabim, c'est un domaine public, ça n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est. L'étable, on a expliqué la nature de l'étable. C'est une étable dans laquelle il y a
de quoi manger.
De quoi manger, mais
elle est ouverte.
Elle n'est pas fermée à 100%. Très bien. Maintenant, Rabbi Yitzhak, il interviendrait sur ça. Mais il y a deux versions, ce que Rabbi Yitzhak a dit. Première version de ce que Rabbi Yitzhak a dit, c'est que Rabbi Yitzhak a dit, il s'est exprimé sur ce premier cas. Et il a dit que dans ce cas de Refet, dans le cas de l'étable, on parle d'une étable ici qui est à l'intérieur de la ville. D'accord ? Comme elle est à l'intérieur de la ville, c'est pour ça que je n'ai pas l'obligation d'intervenir. Mais si cette étable ne serait pas dans la ville, est-ce que j'ai l'obligation d'intervenir ?
Oui.
On est d'accord ? Oui ou non ? Je répète. Première version, qui dit que Rabbi Yitzhak s'est exprimé que sur ce cas. Et il a dit que Refet, l'étable de quelqu'un on parle d'un cas dans lequel l'étable se trouve dans la ville.
D'accord.
Et que c'est pour ça que comme elle est dans la ville, d'accord, ça serait pour ça que je n'ai pas l'obligation d'intervenir. Mais si l'étable se trouvait à la campagne et qu'il y a un risque que la vache se perde, dans ce cas-là, est-ce que je dois intervenir ? Oui.
Oui.
Ça veut dire que d'après Rabbi Yitzhak, l'étable ici, on parle d'un cas qu'elle est dans la ville.
Dans la ville.
Donc de là, on comprend. Que le Rabbi Yitzhak a expliqué que le premier cas de la Mishnah parle de dans la ville, le second cas de la Mishnah parle aussi d'un cas que la vache est dans la ville. Oui. Donc si elle est dans la ville, ça voudrait dire que dans quel cas on me dit que ça veut dire que dans la ville, quand on dit que j'ai l'obligation de rendre, quand elle est dans le domaine public, c'est même si elle est dans la ville. Même si elle est rue Paul à Enfer et que j'ai de fortes chances à penser que le propriétaire est au bistrot d'à côté, j'ai quand même l'obligation de la rendre à son propriétaire. Vous suivez ? Très bien. Ça, c'est première hypothèse.
Et dans l'étable, il n'a pas l'obligation.
Non.
Et quand elle est,
il n'a pas l'obligation elle est si elle est dans la ville.
Elle est dans la ville.
Très bien. Mais la vache, non, mais nous, ce qu'on a, c'est-à-dire que Rabbi Yitzhak vous a expliqué que la Mishnah parle d'un cas de figure où la vache est dans la ville.
D'accord.
Puisqu'elle est dans la ville, ça veut dire que quand elle est dans le domaine public, même si le domaine public est dans la ville et que j'ai de fortes chances de penser que le propriétaire est aux alentours, j'ai quand même l'obligation de rester à côté. Donc c'est le cas de la boulangerie, je vous ai dit. La boulangerie avec le moteur tournant à côté.
Ouais.
Très bien. Là, c'est une première version.
Et d'où on apprend? Parce que là...
D'où on apprend? On apprend que Rabbi Yitzhak... D'accord. On ne connaît pas les raisons de Rabbi Yitzhak. Hein.
Nous, on apprend les tables, que quand elle est dans la ville...
Voilà. Mais le problème, c'est que ça c'est la même Mishnah.
Pour la vache,
très bien.
Ouais.
C'est que ça, c'est dans la même Mishnah.
J'ai compris.
Mais je te dis, si elle est dans les tables, non, mais si elle est dans le Shtarabim, oui. Donc, puisque Rabbi Yitzhak nous a dit que le premier cas parle qu'elle est dans la ville, ouais. Donc le deuxième cas parle aussi du même cas, puisque dans la Mishnah, c'était un seul cas, tout ça, c'était un seul grand cas.
C'est la Mishnah qui nous apprend que quand la vache, elle est dans la ville, on a l'obligation de la ramener.
Dans le domaine public.
Dans le domaine public.
Nous, première hypothèse, on dit que la Mishnah de quel cas elle parle d'un cas de la ville. Et que dans la ville, si la vache est dans l'étable, j'ai pas besoin de la ramener. Ça veut dire que si elle ne serait pas dans la ville, il faut la ramener. Dans le domaine public, même si elle est dans la ville, j'ai toujours l'obligation de la ramener à son propriétaire, à plus forte raison si elle n'est pas dans la ville. C'est la première hypothèse. Seconde hypothèse, de dire que la vache n'est pas dans la ville. Et que Rabbi Yitzhak serait exprimé sur ce cas, pas sur ce cas.
Sur la fin.
Sur la fin. Sur ce cas-là, Rabbi Yitzhak aurait dit que pourquoi j'ai l'obligation de la rendre? Parce que la vache n'est pas dans la ville. On est à la campagne nationale, route nationale. D'accord. Pourquoi j'ai l'obligation de la rendre? Parce qu'on n'est pas dans la ville.
Elle peut se perdre.
Et là, elle peut se perdre. Donc de là, on comprend.
Mais là, si déjà dans la ville, on doit la ramener.
Non, mais c'était la première hypothèse. On sait que Rabbi Yitzhak s'est exprimé dessus, mais il y a deux avis. Il y a un premier avis qui nous dit que Rabbi Yitzhak s'est exprimé sur ce cas,
ouais.
Et qui nous a dit qu'on parle d'un cas où il y a une ville, ou qu'on est dans la ville. Donc ça veut dire que ce cas-là aussi parle de la ville. Là maintenant, je vous parle d'une deuxième hypothèse. D'accord. Deuxième hypothèse. On dit ici que Rabbi Yitzhak se serait exprimé sur ce cas, sur le cas du domaine public.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'il aurait dit sur ce cas, le cas du domaine public, Rashut Aravim? Il aurait dit que pourquoi je dois ramener la vache à son propriétaire? Parce que on est dans un domaine public qui n'est pas dans la ville. D'accord. C'est pour ça que je dois la ramener.
Donc
elle risque de se perdre. Donc oui. Ça voudrait dire que rue Paulin Enfer, boulangerie, moteur tournant, je touche pas la voiture. D'accord. Donc de là on comprend. D'accord.
Je vais renseigner pas là-dessus.
Et d'où on le déduit?
On ne déduit rien du tout. Rabbi Yitzhak, on ne connaît pas ses raisons. Nous, c'est un enseignement qu'on a reçu au Beit HaMidrash de Rabbi Yitzhak. Maintenant, Rabbi Yitzhak est décédé, il n'est pas là. Rabbi Yitzhak avait certainement reçu ça de ceux qui ont écrit la Mishnah.
Oui, mais pourquoi il pense comme ça?
On ne sait pas, il ne nous l'a pas dit. Rabbi Yitzhak nous a pas dit
ça. Non, pas lui, mais ceux qui parlent en son nom.
Oui.
Pourquoi il prend la déduction suivante, que si c'est la vache, elle est dans la ville.
Oui.
Donc il faut la... Il faut pas la ramener, c'est
ça? J'ai compris votre question.
Dans le deuxième cas...
Eux, ils partent d'une base qu'on a une seule Mishnah.
Ouais.
Et si Rabbi Yitzhak s'est exprimé sur un cas, et il a expliqué que ça parlait d'un cas de figure, ville ou pas ville,
ouais.
Ça s'appliquera aussi sur le deuxième cas.
D'accord.
Toujours.
D'accord.
Donc première hypothèse, c'est de dire que c'est que Rabbi Yitzhak serait exprimé sur l'étable, et qu'il a dit qu'on parle d'un cas que l'étable est dans
la ville.
D'accord. Et que même si elle est dans la ville, je n'ai pas l'obligation de la ramener à son propriétaire.
Ouais.
D'accord. Donc dans ce cas-là, je comprends que si la vache est dans le domaine public, même si le domaine public est dans la ville, est-ce que j'ai l'obligation de le rendre à son propriétaire? Rue Paulin Enfer, moteur tournant? Oui. Deuxième hypothèse.
Mais...
Attendez, laissez-moi finir. Ouais. Faut finir. Deuxième hypothèse. De dire que Rabbi Yitzhak se serait exprimé sur ce cas. D'accord. Il y a deux avis dans le Beit HaMidrash. Ça s'est perdu. Il ne s'est pas écrit, donc on s'est perdu. Rabbi Yitzhak serait exprimé sur ce cas, le cas du domaine public. C'est-à-dire que le cas où la Mishnah a dit que domaine public, tu ne rends pas. D'accord. Domaine public, pardon, tu dois rendre. Oui. Et qu'il aurait dit que de quel cas on parle d'un domaine public qui se trouve pas dans la ville. Ça veut dire un domaine public qui est à la campagne.
Campagne.
Très bien. Et que c'est pour ça que j'ai l'obligation de la rendre. Ça veut dire que rue Paulin Enfer, boulangerie, moteur tournant, est-ce que je dois rendre la voiture?
Non.
Non. Parce qu'on n'est pas... Parce que là, on est dans la ville. D'accord. Ouais. Alors que Rabbi Yitzhak a dit que la Mishnah qui nous a imposé de la rendre parlait d'un cas qu'on est dans...
Et puis elle parlait
dans la campagne, pas dans la ville.
Du domaine public aussi.
Très bien. Donc, de là on comprend, nous dit la Mishnah, d'accord, donc de là on comprend, nous dit pardon la Gemara, que si tu m'as dit que le deuxième cas parlait d'un cas où on n'est pas dans la ville, on est à la campagne,
ouais.
De là on comprend que le premier cas parle également dans le cas aussi où on est à la campagne. Ah. Et c'est pour te dire que même si on est à la campagne, et que je vois une étable qui n'est pas assez protégée, est-ce que j'interviens ou j'interviens pas ?
On intervient.
Je répète. Rabbi Yitzhak a dit que la Mishnah, selon le second avis, Rabbi Yitzhak a dit que la Mishnah parle d'un cas où on est à la campagne.
Ouais.
D'accord ? Donc on est à la campagne. On est à la campagne, domaine public, je dois la rendre, parce qu'elle est perdue. Domaine privé, donc enfin étable, pas assez protégée, est-ce que je dois la rendre ? Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah ?
Non.
Ça veut dire que la Mishnah nous aurait dit que même si on est à la campagne, je n'ai pas l'obligation de ramener la vache à son propriétaire, d'accord ? Puisqu'elle est dans une étable et que l'animal a à manger. Vous voyez les quatre figures ? Donc maintenant on va essayer de faire un tableau ensemble, avec ce que j'ai expliqué ici. Alors comment faire notre tableau ? Oui. Vous me suivez ? C'est bon, vous avez compris ? Voilà.
Ah, je comprends, mais enfin, de bien le...
Oui, j'ai compris, c'est pour ça que je dis que c'est ça.
De bien l'assimiler...
Ça, c'est une vraie logique de marrage qu'on fait là. Hein. Enfin, c'est... on est en plein dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Ir, d'accord ? Et on a, deuxième cas, c'est...
Donc, c'est la campagne.
Campagne.
Donc, je vais mettre Ir barré. Faut pas vous compliquer. D'accord ? Ir et pas Ir. La ville et pas la ville. D'un autre côté, maintenant, on a Refet. Et Reshut Arabim. Voilà, donc on fait notre tableau ici. Vous voyez ? Bon, alors vous essayez de me remplir maintenant les cases. Alors je vais mettre à chaque fois un petit 1. Je vais mettre à chaque fois petit 1. D'accord ? Et petit 2, parce qu'on a deux avis et deux manières de voir les choses. Et selon les deux avis. On va commencer par premier avis. D'accord ? Tu veux nous remplir le tableau, Yaakov ?
Alors, premier avis, c'est...
Alors, deux secondes. Premier avis qui a dit que Rabbi Yitzhak se serait exprimé sur l'étable.
Sur l'étable, oui.
Et qu'est-ce qu'il a dit sur l'étable ?
Il a dit que si la vache, elle a de quoi manger...
D'accord. Vache est dans la ville ou pas dans la ville ?
Elle est dans la ville, là.
Elle est dans la ville, très bien. D'accord. Donc, elle est dans la ville, et donc ça veut dire que c'est pour ça que... C'est pour ça que je ne dois pas... Très bien. Donc, la vache dans la ville,
je
la rends pas. Mais la vache, elle est dans le...
Mais la vache, elle est dans
si elle n'est pas dans la ville, est-ce que j'ai l'obligation de la rendre ? Son propriétaire.
Ah, c'est le deuxième avis, ça.
Non. Premier avis. Qui a dit que la Mishnah s'est exprimée uniquement dans un cas de la ville. Et que c'est pour ça qu'elle a dit que j'ai pas l'obligation de la ramener.
Ouais.
Ça veut dire que si la vache ne serait pas dans la ville...
Oui,
Donc tu mets un V ici. Ouais. Très bien. Maintenant. Reshut Arabim. On reste toujours dans la première hypothèse.
D'accord.
Et
là, c'est sûr qu'il faut...
Toujours, il faut la rendre.
Il faut la rendre, toujours.
Donc, tu me mets un V partout.
Là. Voilà.
Très bien. Maintenant, deuxième hypothèse. Qui a dit que... Rabbi Yitzhak se serait exprimé sur Reshut Arabim, mais il a dit qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de ville.
Il n'y a pas de ville, c'est la campagne, donc on est là.
Très bien.
Voilà.
Donc la campagne, alors.
Alors.
Dans la ville, est-ce qu'il faut la rendre ?
Non.
Non. Donc tu mets un X. Donc dans ce cas-là, tu mets. Attends, une seconde. Ici, Reshut Arabim, tu me mets un X. D'accord ? Alors que dans la campagne, est-ce qu'il faut la rendre ?
Oui.
Bien sûr, évidemment. D'accord ? Maintenant, on va passer à la ville. Dans la ville, d'accord ? Puisqu'il a dit qu'on parle d'un cas où c'est pas dans la ville. D'accord ? Ça veut dire qu'il est en train de te dire ici que jamais, dans aucun des cas, même si on n'est pas dans la ville et qu'on est à la campagne, j'ai pas l'obligation de la rendre. Ça veut dire que ici, dans tous les cas, tu mets un X. Vas-y, mets-moi un X. Vous voyez la différence entre les hypothèses ? Première hypothèse, deuxième hypothèse. Vous voyez la différence ?
Tu vois la différence ou pas ?
Est-ce que là, c'est la halakha, là. Je vous montre la halakha. Vous voyez la différence ou pas ? Bon, là, il faut repasser une couche dans la chazara. Je vous laisse mon tableau, si vous voulez.
Oui, parce que je ne suis pas de faire du tania, hein.
D'accord.
Pour repasser les couches, hein.
Vous voyez ou pas ? Ouais. Vous avez compris ? C'est pas compliqué, c'est simple, hein.
Non, je sais que c'est simple.
Hein ?
Mais on se demande pourquoi on ne le capte pas tout de suite, normalement. Si l'esprit est ouvert, c'est...
Dès qu'on le suit. J'ai fait chez l'école ?
Hein ?
J'ai fait chez l'école ?
Ouais.
Parce que, on a autre chose à penser, on n'est pas dedans...
Bon. Vous voyez des différences dans les cas de figure ici. Par exemple, le cas de Refet, vous voyez que d'après la première hypothèse ici, là c'est non, alors que ça serait ici, qu'est-ce qu'il m'a dit ici ?
Non.
Qu'est-ce qu'il m'a mis ici ? C'est non ici. Non et non, alors que là c'est oui et non. Là c'est oui, oui, d'accord ? Et là c'est oui et non. Ça veut dire que, montrez-moi les deux cas dans lesquels il y a une différence. Il y a deux cas ici dans lesquels il y a une différence entre le premier et la deuxième hypothèse.
Enfin, c'est marqué, non ?
Et montrez-moi.
Là, t'as là et là.
Très bien.
On n'est pas au GAN.
Si, on est au GAN, justement. On est au GAN de la Gemara. C'est bon ? Bon, je vous laisse le tableau, on avancera, vous vous réviserez après. Alors, on passe à la suite. Changez de sujet. Ensuite, on a dit que Bébé Takvarot, le Itamala. On avait dit dans la Mishnah que si la trouvaille se trouve dans un cimetière et que je suis
un Kohen,
très bien, qu'est-ce qu'on a dit ? Le Itamala, d'accord ? Je ne dois pas me rendre impur. D'accord ? Et on avait dit de même. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle avait dit la Mishnah ? Elle avait dit la Mishnah avait dit
de même. Si
mon père, je suis Kohen, et il y a une trouvaille qui se trouve dans un cimetière. Je vois une vache dans un cimetière.
Oui, ça peut arriver.
D'accord ? Elle n'a rien à faire là-bas. Et mon père me dit, rends-toi impur. Monsieur Daniel,
ouais.
Vous n'étiez pas là la semaine dernière. Écoutez le cas.
Vous n'étiez pas là la semaine dernière ?
Oh. Vous écoutez ce que je viens de dire ?
Ouais. Ouais. Ah, un cours, c'est
imaginez-vous que je suis Kohen. Est-ce que je peux rentrer dans un cimetière ?
Non.
Bon, je passe à côté d'un cimetière, et au travers des grilles, je vois une vache. Est-ce qu'une vache a quelque chose à faire dans un cimetière ?
Non.
Donc, je me pose la question, est-ce que je dois rentrer dans un cimetière pour ramener la vache ? Mais je suis Kohen. Qu'est-ce que vous pensez ?
Je crois que je l'avais vu il y a 2 semaines, ça.
Très bien. On l'avait vu rapidement. Qu'est-ce qu'on avait dit il y a 2 semaines ? On avait dit que le Itamala, il ne se rend pas impur.
Ouais.
Il n'a pas le droit. Très bien. On va décortiquer pourquoi. Maintenant, on avait dit, si je suis Kohen, je vois la vache dans un cimetière, et mon père me demande, va rentrer chercher la vache. Donc là, dans ce cas-là, j'ai 2 mitzvot positives. Mitzvah positive de ramener une trouvaille à son propriétaire, mitzvah positive d'écouter mes parents, contre une mitzvah négative de ne pas me rendre impur par un mort. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ?
Vous allez chercher la...
Non, je ne rentre pas non plus.
Ah bon ?
Ouais.
Contre la Torah...
Ah oui, j'ai compris.
Tanoura banane, c'est celle que la Gemara avait expliqué. On sait a priori pourquoi.
C'est 2 positives contre une négative.
Bon, oui, normalement en plus, rappelez-vous ce qu'on a dit, normalement une mitzvah positive repousse toujours une mitzvah négative. Puisque... Quand par exemple j'ai une mitzvah négative de ne pas transgresser le Shabbat et j'ai une mitzvah positive
de faire plaisir à ma femme.
De faire la Mila. D'accord ?
Je ne vais pas acheter de bijoux.
D'accord, lequel il passe avant ?
La Mila.
La Mila. Donc normalement une mitzvah positive repousse une mitzvah négative.
Ouais.
On est d'accord ? C'est un principe ça.
Ouais.
Bon, pourquoi ici j'ai 2 mitzvot positives et il ne me repousse pas la mitzvah négative ?
Ah parce que c'est dehors et
ça. Hein ?
Une mitzvah positive.
Mais on aurait des cas contraires qui pourraient démontrer le contraire ?
Bien sûr, non, la Gemara va expliquer, il y a des preuves, il y a des raisons. Oui ?
On n'a pas de mitzvah.
Non, regardez.
De Raifa, je vais mettre ici...
Non, tout ça sont de Raifa.
D'accord ? Kever. Kever, le cimetière. D'accord ? J'ai une seule avéra négative. Alors que, ici, dans mon cas de Kohen, par rapport au Kohen, d'accord ? Par rapport à la... Ça, c'est l'objet, ça, c'est la personne. Donc l'objet, le cimetière, j'ai une seule mitzvah négative qui m'interdit de rentrer. Alors que par rapport au Kohen, par rapport à la mitzvah de rendre la perte, à Shabbat Aveda, j'ai 2 mitzvot positives. D'accord ? J'ai Abba, le fait que c'est mon père qui me demande, et j'ai aussi le fait de...
Ramener la perte.
À Shabbat Aveda. Mmh. Ah, j'écris un cursif, vous lisez le cursif, oui.
Bon.
À Shabbat Aveda, donc j'en ai 2. Donc normalement, déjà une mitzvah. D'accord ?
On réfute, c'est plus simple.
Donc déjà... Normalement avec une mitzvah positive, ça devrait repousser la négative. Là j'en ai 2, et pourtant tu me dis tu rentres pas au cimetière, tu suis celle-là. Pourquoi ? On va expliquer. Tanou Rabban a Nechachami, il nous a enseigné, Minaïn, d'où on sait, donc c'est une braïta, à nous, d'où on sait, Ch'im Amarlo Aviv, que si son père, qu'est-ce qu'il y a ?
C'est une braïta, oui.
Oui, c'est une braïta, bien sûr, Tanou Rabban, c'est une braïta. Alors, d'où on sait que si son père lui a dit, si le père du Kohen lui a dit, Itamé.
C'est le Mishnah aussi.
Si, non. Tanou Rabbanan, c'est une braïta. Si les Chachamim, si, pardon, son père lui a dit, Itamé, rends-toi impur. D'accord ? Si il lui a dit rends-toi impur, Osha Marlo, ou bien qu'il lui a dit Alta Khazir ne rend pas. Ah, c'est encore un autre cas de figure. Oubliez le cimetière, monsieur Daniel.
Ouais.
D'accord ? Je ne suis pas Cohen, je suis un juif simple. D'accord ? Donc j'ai mis ça de rendre la trouvaille.
Ouais.
D'accord ? Et mon père me dit ne rends pas la trouvaille. Donc là, dans ce cas-là, quelle collision j'ai ici ? J'ai une collision entre quoi et quoi ?
Le fait d'obéir à son père.
Entre la mitzvah positive d'obéir à son père et la mitzvah
positive de ramener la trouvaille.
En fait, j'ai positive contre positive.
Ouais.
C'est un peu plus compliqué, là.
Donc c'est la oui, mais attends, j'ai aussi la mitzvah de pas rentrer dans le cimetière.
De quoi ? Non, oublie le cimetière.
C'est laquelle qui prime.
C'est laquelle qui prime. D'où je sais, chez Loïchmalo, que je n'écoute pas mon père. Donc je ne rentre pas au cimetière, je n'écoute pas mon père, et ben, enfin, etc. D'où je sais que je n'écoute pas mon père. Chez Neymar, comme c'est écrit, Ish Imo Ve'aviv, dans la paracha Kedoshim, c'est écrit comme ça. Ish Imo Ve'aviv Tiraou. Dieu nous dit qu'un homme devra craindre sa mère et son père. Vous savez pourquoi on dit sa mère avant son père ?
Oui.
Pourquoi, d'accord ?
Parce que naturellement, c'est le contraire.
Naturellement, on est plus poussé à avoir la crainte de son père.
Et le respect de
sa mère. Et le respect de, enfin, et l'amour de sa mère. C'est pour ça que la Torah, lorsqu'elle me parle de crainte, d'accord ? Lorsqu'elle me parle de crainte, elle me dit, elle me fait passer la mère en premier pour me dire que tu dois craindre ta mère aussi autant que ton père. Donc les versets disent comme ça. Ish imo veriv siraou. Un homme devra craindre sa mère et son père. Ve'et shabetotai tishmoru ani Hashem. Et vous devrez garder mes shabbats, ani Hashem, je suis Dieu. Donc qu'est-ce qui saute aux yeux dans ce verset ? C'est le fait que la Torah a juxtaposé la mitzvah de respecter ses parents avec la mitzvah du Shabbat. Oui ? On a vu, la Torah dit clairement, la Torah dit, vous devrez craindre tu devras craindre ton père et ta mère, et on passe même pas au verset suivant. Dans le même verset, il te dit, et tu devrais garder mes Shabbats, je suis Dieu. Pourquoi nous a dit ça ? Pour nous dire que, de la même manière que mes parents ont l'obligation de ne pas transgresser le Shabbat, d'accord ? J'ai l'obligation, dans quel cas j'ai l'obligation d'écouter mes parents ? C'est uniquement lorsqu'ils vont dans le même sens que Kadosh Baruch Hu. En d'autres termes, je répète, il dit comme ça. Il dit, un homme devra craindre son père et sa mère, et vous devrez garder mes Shabbats. Vous devrez garder, c'est qui vous ?
Tout le monde.
Tout le monde, ça veut dire vos parents aussi. Ça veut dire que ton père aussi doit garder le Shabbat. Et si ton père il te demande de ne pas garder le Shabbat, d'accord ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit non. On lui dit, la Torah m'a demandé de t'écouter seulement lorsque c'est dans le cadre de ce que Kadosh Baruch Hu nous demande. Mais si ça va à l'encontre de ce que Kadosh Baruch Hu nous demande, je ne t'écoute pas, je n'ai pas la misère de t'écouter.
Ça c'est une interprétation. Hein.
D'accord ? Une interprétation qui est très logique.
Certainement, mais c'est une interprétation. Le texte, tu ne peux pas le déduire du texte.
Le verset dit comme ça. Le verset te dit, un homme devra garder... Remarque aussi quand la forme du texte change. D'accord ? Écoutez bien. Imaginez-vous que, voilà, M. Daniel c'est le fils et Jacob c'est le père. D'accord ? Je m'adresse à M. Daniel, je lui dis, M. Daniel... D'accord ?
Il n'a pas eu ton mariage.
Monsieur Daniel devra respecter son père et sa mère. D'accord ? Et vous devrez... Remarquez que j'ai changé là de personne. D'accord ? Et vous devrez garder mes Shabbats. C'est quoi si ça prête à changer ici ? Ça veut dire que dans la deuxième partie du verset, la Torah s'adresse à tout le monde. La Torah s'adresse à l'enfant et aux parents. Et elle lui dit que tout le monde devra garder le Shabbat.
Alors sur moi, fais le contraire. Marque-moi, vous et mon Shabbat, vous observerez, et chaque homme craindra son père et sa mère.
Non, justement, c'est pour dire que notre but ici, c'est de t'enseigner la mitzvah d'honorer ses parents.
Oui.
Mais pour te dire que la mitzvah d'honorer ses parents vient uniquement dans le cadre, d'accord, hors mitzvah. Mais dès que ça interfère avec une mitzvah, la mitzvah n'existe pas. Ça veut dire, par exemple, je décide de faire une mitzvah, mon père me dit, il n'est pas religieux, il me dit, ne le fais pas, je le préserve, je ne l'écoute pas. Pourquoi ? Puisque bien que normalement j'ai une idée de respecter mes parents, la mitzvah est uniquement dans le cadre si ça n'interfère pas avec une autre mitzvah de la Kadosh Baruch
Hu. C'est pas clairement...
Bien sûr, c'est jamais clairement, c'est une dracha.
C'est une dracha, hein,
c'est sûr, ça. Sinon, à quoi ça sert la Gemara ? À quoi il sert les Chachamim ? Alors, Ve'et shabetotai tishmoru ani Hashem. Kulchem chayavim birvodi. De là, on comprend que pourquoi Dieu dit un homme devra respecter son père et sa mère, et vous devrez garder mes Shabbats. Tout d'un coup, donc on était au singulier, on est passé au pluriel. C'est pour dire que vous tous, ça veut dire les parents et les enfants, auront l'obligation de respecter Dieu. Ça veut dire qu'en d'autres termes, lorsqu'il y a une interférence entre une mitzvah et le respect des parents, c'est lequel qui va primer, monsieur Daniel ? C'est toujours la mitzvah. C'est le verset qui nous le dit clairement. Comme ça, les Chachamim ont compris. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Tama, la raison, ça veut dire que d'où tu as appris ça, des katavra chamana, c'est parce que la Torah a écrit, Ve'et shabetotai tishmoru. D'où tu m'as appris tout ce joli développement que tu m'as fait, c'est parce que la Torah s'est exprimée en deux temps. Qu'est-ce que la Torah a dit ? La Torah a dit, vous respecterez, donc tu respecteras ton père et ta mère, et Enfin, un homme devra respecter son père et sa mère, et vous devrez garder le Shabbat. Ça veut dire que d'où on a appris que toujours la mitzvah va primer sur les... Ça veut dire toujours une mitzvah va primer toujours sur la mitzvah de Kivud Avaim. D'où on a appris ça? Du fait que la Torah a fini le verset en disant « Vous observerez le Shabbat ». On est d'accord? De là, je comprends. D'accord? À la varie, de là, je comprends que... Imaginez-vous que la Torah n'avait pas fini le verset comme ça. La Torah avait juste dit « Vous devrez respecter votre père et votre mère ». Ça est allé, d'accord? J'aurais pu penser, Ava Amina, j'aurais pu penser, ça est allé, que je dois écouter mon père. On est d'accord? Ça veut dire que si par exemple j'ai envie de faire une mitzvah, j'ai envie de donner la tzedaka à quelqu'un, et que mon père il me dit non, tu ne donnes pas la tzedaka. Donc j'aurais pu penser que dans ce cas-là, est-ce que je dois écouter mon père, monsieur Daniel?
Oui.
Oui? Ah oui, a priori oui. Parce qu'apparemment, tu me dis que là, d'où je sais que je ne dois pas écouter mon père quand ça t'affaire avec une mitzvah, c'est du fait que le pasouk a terminé en disant.
Vous
observerez le Shabbat. Ça veut dire que si le verset n'avait pas fini avec ça, d'accord, on n'aurait pas pu savoir ça. Tu es sûr? Attends, c'est pas si simple. Vamaï, pourquoi? Moi, je te montrais que même si le verset n'avait pas fini comme ça, je l'aurais su de moi-même. Pourquoi? Vehaï, a priori, c'est... Vehaï, vamaï, et pourquoi? Pourquoi tu me dis que sans le pasouk, je n'ai pas... Sans le pasouk, j'aurais été quitte de rendre la trouvaille? A priori, aïe, assez. Le fait de respecter ses parents, c'est une mitzvah qui est positive. On est d'accord? Vehaï. Alors que la mitzvah de rendre sa trouvaille, c'est l'ota, c'est va, c'est. C'est une mitzvah positive et une mitzvah négative. Alors en quoi c'est une mitzvah positive et une mitzvah négative? Alors, je ne sais pas si vous avez ici dans le... On cherche le pasouk. Bon, sinon, je vais vous le dire à l'oral, mais je vais vous le montrer. Il y a deux versets. D'accord ? Il y a Hachef Teshivem, il y a Lotuchal Leit Alem.
Il y a toujours son contraire. Dans une...
Alors, donnez. Déjà, il y a un premier verset, vous prenez la page n'importe où, 31A. À quelque... Je vais vous montrer le pasouk. Non, pas ici. 31. Ah. 31A. Peu importe le A1, A2 ou peu importe.
C'est la
31A. On prend le côté Gemara. Et vous prenez la référence numéro 1. Dans Torah Or HaShalem. Vechen ta'ase l'achamoro, vechen ta'ase l'simlato, vous savez ? Torah Or. Vechen ta'ase l'chol avedat achicha, achartova du menu. Donc, ainsi tu feras pour l'âne, ainsi tu feras pour le vêtement de ton... ainsi tu feras pour toute trouvaille de ton frère, achartova du menu metzata, qui sera perdu... Donc, qu'il perdra et que tu trouveras. Bon, ça c'est basique. Mais sur quoi on s'arrête? Enfin, on a déjà expliqué. Le touchal leit alem, tu n'auras pas le droit de l'ignorer. C'est une mitzvah positive ou négative?
Négative.
Tu n'auras pas le droit de l'ignorer. D'accord?
Je l'ignore pas.
Bon. Maintenant, Hachef Teshivem l'achicha. Alors, Hachef Teshivem, cherchez aussi comment on va trouver ce verset. Alors, vous prenez la page 30B. Et vous prenez un Torah Or HaShalem, référence numéro 2. 30B. Vous prenez normalement, vous avez Torah Or HaShalem, référence numéro 2. D'accord ? Alors, Lotir'e et Tcharachicha Otseyo Nitachim Vit Alam Tameem, tu n'auras pas le droit de voir le taureau de ton ami ou son agneau, Nitachim perdu, Vit Alam Tameem, et les ignorer. Donc ça, a priori, c'est une répétition avec ce qu'on a déjà vu. Mais bon, ça on avait déjà vu dans la Gemara, que pourquoi on a besoin de deux versets, donc je m'arrête pas dessus. Achève tes shivam l'achicha, tu devras les rendre à ton frère. Donc là, c'est une de positive ou négative?
Positive.
Ça veut dire. Achève tes shivam.
Tu devras
les rendre. Donc on a ici une mise à positive et une mise à négative.
Ouais.
D'accord? Donc on revient à notre Gemara maintenant. Là, je vous ai montré les versets, on revient à notre Gemara. La Gemara nous dit a priori même si le verset n'avait pas fini avec Vechabet Gishmoru, de moi-même j'aurais appris, sans ça j'aurais appris que je ne dois pas écouter mon père lorsqu'il me demande de transgresser, lorsqu'il me demande de ne pas rendre la trouvaille. Pourquoi? Parce que rendre la trouvaille c'est une mitzvah, monsieur Daniel,
positive.
Et négative, très bien. Hachef Teshivem et Lotuchal Leit Alem. D'accord? Alors que la mitzvah d'écouter mon père, c'est une mitzvah qui est positive. Et alors? C'est un principe qui dit que l'oati assez vedachet le taasé ve assez. une mitzvah positive ne peut pas repousser une positive et une négative. D'accord ?
On ne dit pas que, ça s'annule quand il y a une positive et une négative.
Donc ici, en d'autres termes, la mitzvah de rendre, donc je reprends mon... La mitzvah de rendre la trouvaille, c'est une mitzvah positive et négative.
D'accord.
Alors que la mitzvah d'écouter mes parents, c'est seulement une mitzvah positive. On a un principe qu'une mitzvah positive ne peut pas repousser, ne peut repousser qu'une mitzvah négative. Mais elle ne peut pas repousser une négative plus une positive.
Et une positive ?
Hein ? C'est une autre question, ça. Et là, de toute façon, il y aura toujours une positive et une négative.
Ouais.
Puisque rendre la trouvaille, c'est les deux en même temps.
D'accord. Oui, mais là, le critère, c'est est-ce qu'il y a une qui est en dehors de la Torah ou pas ?
Non.
Alors, j'ai écouté tes parents, par exemple.
Écouter tes parents, alors justement, c'est ça la question qu'on te dit. Toi, pour m'expliquer que j'ai pas besoin de rendre la trouvaille, t'as dû me faire appel à un verset de la Torah qui me dit que la mitzvah de Kivudavahem, d'accord ? Regardez ma main droite, la mitzvah de Kivudavahem va intervenir seulement lorsqu'elle n'interfère pas avec une mitzvah. Donc, en d'autres termes, ici, je l'éteins.
Voilà.
Je me suis dit, t'as même pas besoin d'arriver à ça, même sans l'éteindre, même si tu la laisses allumer. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une mitzvah positive et une mitzvah négative. Et de toutes les façons, même si tu la laisses allumer, mitzvah positive ne peut pas repousser une positive et une négative. Donc en d'autres termes, on n'a pas besoin de ton verset. Ça sert à rien. De toute façon, sans ton verset, je me serais débrouillé.
Ouais.
D'accord ? Parce que toi, avec ton verset, tu as voulu m'éteindre la mitzvah. Tu as voulu me dire que la mitzvah n'existe pas lorsqu'elle interfère avec une mitzvah. Bon, c'est joli ce que tu m'as dit. Mais bon, disons que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Disons. D'accord ? Même si tu me laisses allumer la mitzvah, de toutes les façons, de l'autre côté, j'ai une positive plus une négative, donc ça ne la repoussera pas. C'est fini. On est d'accord ? C'est la question de la Gemara. Donc, en d'autres termes, pour notre cas, pourquoi on avait besoin de faire appel au pasouk de Ve'et Shabbatotai Kishmoru ? Sans faire appel avec la logique, d'accord ? Et c'est un principe dans la Torah qu'on a que lorsqu'on peut se débrouiller avec la logique, on ne fait pas appel à un pasouk. Il n'y a pas besoin. Si on peut se débrouiller avec la logique, on ne fait pas appel à un pasouk.
Oui.
C'est normal. Il n'y a pas besoin de déranger un pasouk pour ça. Donc on aurait pu se débrouiller. Toi, tu essayes de me déranger un pasouk pour m'essayer de m'éteindre la mitzvah. T'as pas besoin. Laisse-la allumer. De toute façon, de l'autre côté, dans la balance, je l'écrase. D'accord ? Alors, la Gemara répond, elle dit, je finis avec ça, elle dit, Itztari. Elle dit, on a besoin. On a besoin de ce pasouk qui m'apprend que j'ai besoin de rendre la trouvaille et que la mitzvah, en d'autres termes, la mitzvah de Kivudavahem est éteinte. Pourquoi ? Parce que ça, le Kalev Tachamina, j'aurais pu penser. Oh il veut ou cache qui vous davaem l'irvodo shelmakom. Puisque j'ai une autre preuve. On dit que le qui vous davaem, la mitzvah d'honorer ses parents, a été comparée à la mitzvah d'honorer Dieu. Où elle a été comparée? Chez Nehemarkan, parce que c'est écrit ici, Kabed et Avira Vatimira. Dans les 10 commandements, c'est écrit honore ton père et ta mère. D'accord? Venemar, Lealan, et dans Michelet, c'est écrit Kabed et Hashem Meontra, honore Dieu. D'accord ? Avec ta fortune. Alors, on va retrouver ces versets-là dans Torah Or, toujours. Prenez Torah Or. Référence numéro Aleph et référence numéro Bet. Torah Or HaShalem. C'est ici. C'est là, chez vous. Ici. Ouais. À la droite. Donc, le verset, il dit comme ça. Le verset, il dit... Donc, vous prenez la référence numéro... Non, je ne sais pas qui tirait. Gimel. Kabel et Avira. Kabel et Avira et Timira. Honore ton père et ta mère. Le Ma'an Yerchoun Yamecha. Afin que tes jours vont s'allonger, Ala Adama Asher Hashem Elokecha Noten Lach, sur la terre que Dieu t'a donnée. Donc ça, c'est dans les 10 commandements. Honore ton père et ta mère, c'est dans les 10 commandements.
Cinquième.
D'accord ? C'est le cinquième, ouais, peut-être. Ouais. Non, alors, enfin, on a le pasouk numéro d'Alet, qui nous dit, dans Michelet, le roi Salomon, qui dit, Kabed et Hashem Meonra, honore Dieu de ta fortune, ou Mereshit Kol Tevuatera, et de ce que tu as de mieux, donc des prémices de ta récolte. Donc là, on parle d'honorer Dieu.
Oui.
Quel mot on retrouve de similaire dans les deux versets ? Oui, attendez, quel mot on retrouve
Kabed.
De similaire ? Kabed. D'accord ? Kabed, c'est un terme qu'on trouve en similaire. Donc on appelle, c'est une Gzera Shava. On fait une Gzera Shava, Kabed, Kabed. De nous dire que, Ilkar, c'est pour ça, les Tsayetle. On te dit comme ça, pourquoi j'ai besoin ici d'éteindre le pasouk ? Rappelez-vous, regardez mes mains. J'avais d'un côté la mitzvah d'honorer ses parents, et d'un autre côté la mitzvah positive et négative de Hashavat Aveda. Qu'est-ce qu'on a voulu faire ici ? On a voulu te dire, il faut éteindre cette mitzvah-là, parce que sinon je suis bloqué par cela. On te dit, mais non, tu n'as pas besoin de les éteindre, de toutes les façons, c'est deux contre un. C'est positif plus négatif contre positif, donc même si tu les laisses allumer, de toutes les façons, dans la balance,
ça pèse pas,
c'est
ça
plus
pèse.
Lourd.
D'accord ?
Je te dis non. On te dit, j'ai un problème. La mitzvah de Kivudavahem, si tu ne l'éteins pas, j'ai un problème. Parce que la mitzvah de Kivudavahem a été comparée par Gzera Shava
à la mitzvah d'honorer Dieu.
Bon, c'est positif quand même.
Très bien. Et alors ? Donc, puisqu'elle a été comparée à la mitzvah d'honorer Dieu, qu'est-ce que j'aurais pu penser ? J'aurais pu penser que même si, en général, une positive n'est pas assez forte pour écraser une positive et une négative, mais cette positive est spéciale, puisqu'elle a été comparée à l'honneur de Dieu.
En quoi elle est spéciale ?
D'accord ? Parce qu'il y a une Xera Shava qui me l'a comparée à l'honneur de Dieu.
D'accord. Alors est-ce qu'une, une...
Donc j'aurais pu penser que puisqu'on me l'a comparé à l'honneur de Dieu, on te dit, on aurait pu te dire que de la même manière que Dieu, il faut l'écouter, quoi qu'il te dise, il faut l'écouter. Ben, de la même manière que tes parents, quoi qu'ils te disent, il faut les écouter. Donc ça écrase tout ce que tu as de l'autre côté. C'est le joker. J'aurais pu penser que c'est un joker. C'est pour ça qu'on te dit non. Il n'y a pas de joker. Il n'y a ni de joker, il y a zéro mitzvah, il n'y a rien du tout. Pourquoi ? Puisque du verset dans Kedoshim, que vous retrouvez dans la référence numéro 2, ici dans Torah, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que la mitzvah de Kivudavel, la mitzvah de Kivudavel, même si elle est aussi importante qu'honorer Dieu, mais elle intervient uniquement lorsqu'elle n'interfère pas avec une mitzvah, peu importe la mitzvah qui est de l'autre côté. Donc là, non seulement que j'ai pas de joker, mais j'ai zéro, j'ai rien.
C'est la même cas que Rabbi Eliezer, alors ?
Il y a Eliezer.
Quand, pour l'histoire du puits, est-ce que le puits était caché ou pas ?
Ah oui, oui, bon.
Tu sais, parce que Dieu, là, il dit, ouais, mais c'est bon, etc. Oui, oui. Et les Rabbim, ils ont dit non.
Mais si tu veux, bon, c'est sûrement dans la Kabbalah déjà, là.
Non,
oui.
Non, pas du tout. C'est ça. C'est que ça intervenait contre une autre mitzvah.
Oui, oui, oui. J'ai compris, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris. D'accord ? Ça veut dire qu'en d'autres termes, ils ont dit que même si tu sais logique ce que tu dis, mais ton joker ne démarre même pas.
Il démarre même pas.
Voilà. Donc même si t'es un joker, nous, on l'a éteint, ton joker, il n'y a rien. Voilà. Très bien. D'accord ? Vous suivez ce qu'il est dit ici ? Donc ça veut dire qu'avec ça, la Gemara a expliqué pourquoi on était obligé d'éteindre cette mitzvah. Pourquoi on ne l'a pas laissé allumer ? Et on avait dit que toutes les façons sur la balance est plus lourd. Parce qu'on te dit, comme c'est une mitzvah spéciale, qui a un statut particulier, qu'on a dit que c'est une mitzvah, la mitzvah de Kivudavem a été comparée à l'honneur de Dieu. Donc j'aurais pu penser que puisqu'elle a un statut particulier, d'accord ? Elle écrase toutes les autres mitzvot, particulièrement cette mitzvah-là. C'est pour ça qu'on te dit non. Du verset de Kivudavem, qu'est-ce qu'on a appris ? D'accord ? Du verset de la Parasha Kedoshim, on a appris que la mitzvah d'honorer ses parents va intervenir uniquement lorsqu'elle n'interfère pas avec une autre mitzvah. Donc qu'est-ce que j'ai fait Yaakov avec cette mitzvah ? Donc du coup, j'avais un contre deux,
ouais.
Mais un avec un joker, parce que c'est un statut particulier. Comment on a solutionné le problème ? On a éteint la mitzvah. On a dit que la mitzvah n'existe plus. Pourquoi elle n'existe plus ? Puisque dans la version de Kedoshim, on a appris que la mitzvah d'honorer ses parents intervient uniquement lorsqu'elle n'interfère pas avec une autre mitzvah. Peu importe le poids de la mitzvah. Donc du coup, puisqu'ici elle interfère avec une autre mitzvah, elle n'existe plus. Donc j'ai éteint. Donc puisque j'ai éteint, obligatoirement, de l'autre côté, ça gagne. D'accord ? Et on s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà. On continuera avec cette chaîne la semaine prochaine. Donc, je finis dans les mots. Ilkar, les. J'aurais pu penser que puisque la mitzvah d'honorer ses parents a été comparée à la mitzvah d'honorer Dieu, j'aurais pu penser qu'il faut écouter. Kamashmalan. D'accord ? Kamashmalan. C'est pour ça que on aurait pu penser que, qu'on vient de nous apprendre, des lolishmalé qu'il ne faut pas écouter son père. Alors, écoutez bien. D'accord ? Le Roche, Tosfot HaRoche, pose la question suivante. Il dit, mais c'est quoi cette logique de la Gemara ? Conclut avec une petite sucrerie. C'est quoi cette logique de la Gemara ? La Gemara, elle est en train de nous dire ici que comme l'honneur des parents a été comparé à l'honneur de Dieu, alors j'aurais pu penser que ça écrase tout. Et qui aurait pensé comme ça ? Ça nous dit n'importe quoi de penser comme ça. Ok, c'est une dracha, certainement. Dire que bon, c'est joli d'honorer ses parents, et c'est aussi beau d'honorer Dieu, mais qui aurait pensé que c'est un joker tellement fort que ça écrase tout ? Alors quoi ? C'est-à-dire si mon père me dit sois pas religieux, je ne suis pas religieux ? Qui aurait pensé comme ça ? C'est évident que personne n'aurait pensé comme ça. Hein, vous comprenez la question du Roche ? Mm-hmm. C'est soit ta Roche, je pose la question comme ça. C'est une question qui est très logique.
On aurait pu la poser, là.
D'accord ? C'est une question qui est très logique. Mais ouais. Qui aurait pensé comme ça ? C'est n'importe quoi. Ouais. Ok, c'est une belle mitzvah, c'est une qui est très jolie, qui est comparée à honorer Dieu. Ok, c'est une belle mitzvah. Mais personne n'aurait pensé qu'on va comparer. Personne n'aurait pensé que ça écrase tout. C'est n'importe quoi de penser comme ça. Et le Tosfot HaRoche, il répond comme ça. Il y a un Ben Gmara qui dit dans Yerushalmi. Yerushalmi, elle nous dit, la Gmara dans Yerushalmi, là-bas dans PA, elle nous dit que, sur certains points, honorer ses parents, c'est plus important qu'honorer Dieu. Pourquoi ? Parce que la mitzvah d'honorer Dieu, c'est uniquement si j'ai de l'argent. Mais si j'ai pas d'argent, et j'ai pas de quoi d'honorer Dieu, j'ai pas l'obligation. Alors que pour honorer ses parents, on te dit que même si t'as pas d'argent, et que tes parents n'ont pas de quoi, tu dois aller faire des pieds et des mains pour honorer tes parents. Donc ça, c'est un point sur lequel on voit que la mitzvah d'honorer ses parents a dépassé l'honneur de Dieu. Donc avec ça, explique le Tosfot HaRoche, puisqu'on a vu que sur un point, un certain point, honorer ses parents dépasse honorer Dieu, dans le point que je viens d'expliquer, parce que pour honorer ses parents, tu dois te débrouiller pour les honorer, même si tu n'as pas de quoi, alors que pour honorer Dieu, si tu n'as pas, tu n'as pas. Donc j'aurais pu penser que quelque part, honorer ses parents, ça a un statut vraiment particulier. D'où le pasouk de Kedoshim qui te dit non. Que dès que ça interfère avec une autre mitzvah, on éteint le joker, on éteint carrément la mitzvah. Tout est arrangé, c'est comme ça. T'as pas compris ?
Non.
C'est comme ça. Dis, on a vu dans ce cas-là que je viens d'amener de la Talak Marie Yerushalmi, que honorer ses parents, d'accord, ça va plus loin qu'honorer Dieu.
D'accord.
Puisque pour honorer ses parents, si je dois honorer mes parents, je dois même aller chercher de l'argent.
Oui.
Alors que pour honorer Dieu, j'ai besoin de chercher de l'argent.
Oui.
D'accord.
Chercher l'argent de manière honnête, tu veux dire.
Bien sûr.
D'accord.
D'accord. Donc, ça veut dire que si je suis mendiant, j'ai pas besoin d'aller chercher pour faire une mitzvah, pour acheter un loulav. Alors que par exemple, si je suis mendiant et que Dieu préserve et que j'ai besoin d'aider mes parents, ben, je dois ramasser de l'argent pour ça aussi.
D'accord.
Donc, puisqu'on nous explique ça, j'aurais pu penser que puisqu'on voit que le père a un statut plus fort.
Le père et la mère.
Que Dieu, oui, le père et la mère, ils ont un statut plus fort.
Dans ce cas-là.
Non, ça veut dire qu'on a vu un cas, on a vu une jurisprudence dans laquelle le père et la mère ont un statut plus élevé que Dieu. Donc, d'accord, caviar.
C'est un commandement positif spécial.
Quoi ?
C'est un commandement positif spécial.
Oui. D'accord. Donc dans ce cas-là, j'aurais pu penser que c'est pour ça qu'il efface les autres. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse aussi qui dit à part ça, hein, c'est une autre réponse qui est ramenée, dans le nom de Rabbi Meir. Non, enfin, pas Rabbi Meir, de la Gemara, Rabbi Meir dans Tosfot Arosh. Il ramène là-bas, il dit que, puisque ici j'ai un dilemme entre honorer, puisque tu m'as comparé honorer mes parents et honorer Dieu, et que j'ai ici un dilemme entre honorer mes parents et honorer Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais honorer mes parents, puisque en honorant mes parents, j'honore aussi Dieu. Puisque en honorant mes parents, je fais la mitzvah de Kadosh Baruch Hu. Donc je vais faire une pierre deux coups. Comme une fois on a posé la question à Admor HaZaken. On lui a dit qu'est-ce qui est plus important ? Aimer Israël ou aimer Dieu ?
Il a répondu aimer Israël.
Pourquoi ?
Parce que quand tu aimes Israël, tu aimes Dieu.
Quand tu aimes Israël, tu aimes Dieu ? C'est la réponse de Rabbi Meir.